RMC, cours numéro 1.
Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1 en mode quotidienne pour ces internationaux de France. Ce samedi, c'est la 7e journée et à mes côtés, Flo Serra est là. Salut Flo.
Salut Arnaud, bonsoir à tous.
Et l'inénarrable, l'inamovible Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
On est évidemment.
Oh, les gars, vous êtes aussi solides que les joueurs, aussi physiques que je vous félicite.
Alors même si parfois il y a quelques ratés, notamment de prise, mais ça, ce sont les coulisses de fabrication. Mais on parlera des joueurs, puisqu'on a eu un record avec ce 5h58 entre Juan Martín Cerúndolo et l'Andalouche. Ces matchs qui sont très longs à Roland-Garros. Mais attaquant par Moïse Kouamé, c'est terminé pour Moïse Kouamé, battu par Tabilo, le Chilien. Kouamé avait pris le premier 7-6-4 et ensuite 6-3, 6-4, 7-6 dans le tie-break. Mais quel Roland-Garros quand même à 17 ans pour Moïse Kouamé. Certes, on savait, Flo, que la marche était un peu plus haute. Elle n'était pas injouable, mais était un peu plus haute face à Tabilo. Bon, on a peut-être quelques regrets, mais on a envie de retenir beaucoup de positifs dans ce Roland-Garros et même sur ce match de Moïse.
Bien sûr, il y a des regrets. Il en a, forcément. C'est de ne pas en avoir, ça ne serait pas normal. Avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a montré, c'était jouable. Mais il a été malin, Tabilo, au début. Il a regardé un petit peu comment ça se passait. Il a su hausser son niveau de jeu. Mais Moïse a été très bon quand même. Il a joué avec le public. Physiquement, tu sens qu'il en a encore dans les jambes. Et moi, je vais retenir aussi ce quatrième set où il est quand même derrière, il est breaké encore une fois et puis il va trouver l'énergie avec le public, avec ses jambes physiques pour revenir dans ce match. Tu te dis bon, ça y est, l'histoire va se terminer, mais non, il a surtout failli l'amener encore au cinquième set et je pense que c'est, il va s'en souvenir toute sa vie déjà de ce premier Roland, mais il va surtout aller chercher, il va surtout s'en servir pour les prochains tournois. Et s'il arrive à garder cette attitude là, qu'il continue à bosser physiquement et tout, je pense qu'on va le voir assez physique. On a vu Rodar arriver très vite. On en voit l'Andalousie également. Voilà, je pense que ça va l'inspirer aussi. Et puis là, il est encore tout jeune, donc c'est que du positif.
On sent qu'il a planté beaucoup, beaucoup de graines pour l'avenir et pour son histoire à Paris sur ce Roland, Eric.
Non, mais moi, je suis emballé par le personnage. Déjà, sur le plan du jeu, effectivement, Flo l'a dit, il a tout dans la raquette. Il y a juste quelques petits détails à régler. Le gros regret, c'est dans le tie-break, il a l'occasion de se procurer une balle de 7 et il met un coup droit qui était un petit coup droit pénalty, il le met de peu dans le couloir. Sinon, je pense que Tabilo commençait vraiment à se poser des questions, parce que s'il y avait eu un cinquième, dans l'ambiance qui commençait à y avoir, parce que ça a vraiment, c'est vraiment monté à partir de là.
Déjà qu'il faisait des deuxièmes à 110 km/h.
106, on l'a vu. Je dis, il aurait terminé en dessous de 100 km/h au cinquième. Ça aurait été drôle. On avait envie de le voir, ce cinquième set. Ça peut dire qu'il aurait gagné, mais on avait envie de le voir.
Non, mais Tabilo, en plus, il était frais. Il n'avait pas joué au deuxième tour. Et Moïse, il avait quand même le match contre le Paraguayen dans les jambes. Non, c'est juste extraordinaire à 17 ans de produire un tel tennis. Moi aussi, j'ai une image aussi, je ne sais pas, vous en souvenez, je crois que c'est au premier set. À un moment, il fait un point magnifique. Il se dresse comme ça devant le public, stoïque, et puis il tape dans la main du ramasseur. Il y a un côté showman qui nous rappelle forcément Gaël Monfils. Non, là, on ne l'a pas dit parce que Arnaud, il veut pas être l'annonciateur des mauvaises nouvelles, mais bon, il n'y a plus de Français dans le tableau. C'est quand même le 13e chelem consécutif où on n'arrive pas à placer un gars en quart de finale. Mais là, j'ai quand même la banane, parce que je me dis que cette stat, elle va sauter. Elle va sauter à un moment ou à un autre, et peut-être qu'on a de bonnes chances d'avoir un vainqueur de grand chelem dans les années qui viennent, parce que là, on a planté des graines, il y a Arthur Fils, on touche du bois pour qu'il revienne au plus haut niveau, mais un gars comme Moïse, on va en parler pendant de longues années, parce qu'il a un potentiel énorme. Et puis moi, ce que je retiens aussi, c'est son arrivée en salle de presse avec le maillot du PSG. Et il y a une question qui a été posée sur comment, à son âge, il digère la défaite. Écoutez, sa première réponse, elle est splendide.
Je suis déjà focus sur la récupération pour pouvoir arriver le mieux possible à Lyon, mon prochain tournoi que je vais jouer. Voilà, aujourd'hui j'ai perdu, peut-être que demain je gagnerai. Je suis content parce que j'ai bien joué, j'ai proposé de belles choses tout au long de cette semaine. Donc c'est pas une défaite qui me pose problème, mais c'est plutôt une défaite qui me fera, je suis sûr, grandir dans le futur. C'est une défaite où j'ai appris beaucoup de choses sur moi et c'est une défaite qui peut-être même va importer plus que mes deux victoires. Et donc voilà, pour répondre à la question, je ne suis pas un mauvais perdant, mais je suis un perdant qui apprend de ses erreurs et qui essaye toujours de rebondir le plus haut.
Donc Lyon, un challenger qui arrive très vite, la saison sur herbe. Alors, ça a été posé à la volée, Eric, hein, comme ça, au moment où il allait quitter la salle de presse principale, un peu énigmatique, et on a envie de dire que va y avoir quelque chose, non ?
Il a dit « vous verrez bien », donc avec un petit sourire. Alors, il faut savoir qu'il est couvé par IMG. IMG a des intérêts donc, autour de Wimbledon. Donc, alors, là, on a beaucoup réfléchi dans notre petite cellule tennis. Est-ce que ça veut dire que IMG aurait suffisamment de poids pour que les Anglais lui accordent une wildcard grand tableau ou alors une wildcard qualif ? Parce qu'on réfléchit, Gaël Monfils a fait une demande de wildcard, Grigor Dimitrov aussi, il y a beaucoup de joueurs à servir, beaucoup plus prestigieux que Maurice Coimet. Mais je me dis qu'après Lyon, effectivement, le tournoi de Lionel Roux, il pourrait très bien aller tâter du gazon à Rompton. C'est une expérience à vivre, donc on sera fixé bien vite.
Je sais pas si c'est pas un peu tôt d'aller tout de suite sur gazon. Je me pose la question, tu vois, il parle de Lyon. Je trouve que déjà, ça démontre une certaine humilité après avoir vécu ça à Roland-Garros, de vouloir retourner sur les challengers. Il sait qu'il va devoir retourner au combat sur des challengers, en gagner pour progresser encore. Je me dis que peut-être que vu qu'il est sur terre, hein, à un moment donné, moi, ça m'avait réussi. J'étais plus vieux, hein, mais de rester sur terre pour essayer de se rapprocher du top 100 et peut-être après, pourquoi pas enchaîner sur dur. Après, oui, si tu as une nouvelle carte dans le tableau final aussi à Wimbledon, nous l'avait refusé sur Louis Boisson aussi l'année dernière. Bon, c'est pas pareil, il est tout jeune, comme tu dis, Moïse. Donc, bon, voilà, sait-on jamais. Mais j'aime beaucoup cette humilité de parler déjà des challengers. Et il va falloir. L'idée, c'est qu'il puisse jouer tout le temps, qu'il puisse jouer quand il veut. Et donc, il va falloir aussi faire ses soins, faire cette prévention qui va lui permettre de faire des saisons pleines et donc de progresser et de jouer et de gagner, quoi.
Parce que c'est ce qu'il nous a dit, c'est moi, j'ai aucun problème à aller jouer un challenger. Effectivement, ce qui va changer, mais lui pour rien, ce qui montre aussi son amour du match, son amour du tennis. Oui, c'est le public, c'est le contexte. Il va passer de 10 000 personnes sur le Lenglen à, alors peut-être pas 50 à Lyon, parce que si on annonce Maurice Coimet au challenger, ça peut faire un peu de billetterie, évidemment, hein, Eric, mais il a un chemin tout tracé, vraiment pas brûler les étapes. C'est impressionnant là. Son raisonnement, comment il voit aussi la suite de sa saison, la lucidité, enfin, il en a dans la caboche, c'est fou, hein.
Oui, mais non, sa conférence de presse d'après les fêtes était juste exceptionnelle. En termes de chiffres aussi, il va monter environ 215e mondial. Ça aussi, c'est bien parce que ça veut dire qu'il sera probablement dans le cut des qualifs de l'US Open. Donc non, tout est bien pensé. Et c'est vrai qu'après Monte Carlo, il était retourné faire un futur, un 25 000 en Sardaigne, qu'il avait remporté. Alors là, c'était des conditions extrêmes, parce que j'en avais parlé avec Laurent Raymond, il n'y avait pas de juge de ligne, il n'y avait pas de ramasseur de balles. Et bien, il est allé avec son humilité, il a failli sauter au premier tour, mais il s'est battu comme un chien, et derrière, il a écrasé tout le monde. Donc, non, ce garçon, il écoute beaucoup son staff, son équipe, hein, dit souvent « Oh, bah, c'est pas moi qui décide, c'est eux qui tirent les projets. »
Il y a un type qui sait de quoi il parle. Hein.
Oui, absolument. Il y a Richard Gasquet, il y a Liam Smith qui prend une place importante. Bon, il y a aussi son agent Daryl Monfils qui travaille à IMG. Donc IMG, ils ont beaucoup de poids. Maintenant, il y a un moment de la conf où il était excellentissime, et on va l'écouter parce qu'on ne peut pas résister. C'est quand on lui a demandé ce qu'il allait retenir de cette quinzaine, avec notamment cette remontada. Et là, il nous a parlé de son mental. Et ça vaut le coup d'être écouté.
J'ai toujours su que j'étais quelqu'un qui avait un bon mental. J'ai toujours su que j'étais quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Et j'ai toujours su que je suis quelqu'un qui peut renverser des matchs. Parce que je l'ai fait beaucoup de fois dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, vous m'avez compris. Non, mais voilà, je l'ai fait beaucoup de fois, donc je savais que je pouvais le refaire encore une fois ici à Roland. Voilà, j'ai failli le refaire ici aujourd'hui, et c'est pas passé loin encore une fois, mais mentalement, je savais que c'est une arme secrète, on va dire, que je peux utiliser en cas de recours.
Ah, Sabien, il dit « quand j'étais jeune ». Il a 17 ans et il nous dit dans sa réponse « Flo, quand j'étais jeune », avec un grand sourire. Non, mais pour revenir sur la suite, parce que il y a aussi quelque chose qu'on évoque, c'est les juniors, notamment Wimbledon. Donc, est-ce que toi, ça te paraît cohérent, tu t'es déjà prononcé, Flo, retourner sur les Challengers Lyon et peut-être sur gazon, aller découvrir avec un tournoi junior, ça paraît aussi d'être une bonne marche. Ça te semble un choix intelligent ?
Quelle insolence quand il parle de quand j'étais jeune. Mais Moi, jouer les juniors, bon, je vois pas trop l'intérêt. Là, vu ce qu'il nous a montré, il a l'air assez mûr pour partir sur le circuit déjà. Il va falloir se renforcer. Les challengers sont un beau test aussi. Il pourra profiter de quelques wildcards. Moi, si je, voilà, peut-être tâter du gazon. Il va y avoir des progrès à faire aussi de ce côté-là, mais il sert aussi très bien. On l'a vu, hein, même encore dans le tie-break, après 4 heures de jeu, que ce soit contre Valero ou aujourd'hui, il est capable de servir à 217-220. Je vois pas l'intérêt d'aller gagner un tournoi junior ou voilà, je trouve qu'il est bien. Il faut plutôt essayer de prendre, se renforcer encore sur les challengers ou même s'il veut découvrir le gazon, pourquoi pas. Mais voilà, je resterai là-dessus. Et si c'est des qualifs gazon, j'irai pas. Si c'est tableau, ça se réfléchit.
C'est-à-dire aller jouer les tournois de gazon qu'il y a un peu avant, Eric, ou pas
d'ailleurs de... sur terre. Reste ouais. Sur terre et va sur dur après. Je trouve que c'est bien.
Mais là ça va être juste parce que Lyon, c'est la semaine qui suit la finale de Roland. C'est du 9 au 16, je crois. Donc là, il a une semaine de pause pour digérer tout ça émotionnellement, physiquement aussi. Il va aller jouer le tournoi de Lionel Roux au Tennis Club de Lyon. Et après, effectivement, s'il décide de dire oui au qualif de Wim, bon, bah, il aura 3-4 jours pour se préparer et tenter l'aventure à Rompton. Mais j'ai l'impression que c'est un garçon qui est assez curieux, tu vois, curieux de découvrir des choses. Et puis, il voit plus loin aussi. Il y a un moment, il aura accès à tous les tableaux. Donc, c'est peut-être bien de mettre les chaussures avec les picots pour voir ce que ça donne. Parce que bah, il y a un moment, il faudra qu'il jouera le championship, c'est évident. Parce
l'année prochaine. L'année prochaine, pas tout de suite.
Il y a autre chose, juste avant de clore le dossier Kwame, bah c'est sa rencontre avec le public français, à la fois à Roland-Garros, même si les plus passionnés étaient là l'année dernière dans le tableau junior, Eric, mais il a été vu par des millions de Français à la télévision en clair. On a vu des magnifiques audiences, je crois qu'on a tutoyé les 3 millions pour le match d'avant. On a évidemment, à l'heure où nous enregistrons, on n'a pas l'audience de ce samedi, mais il y a évidemment cette nouvelle dimension-là. Il disait maintenant, bah, on me reconnaît dans la rue.
Oui, il est entré dans les foyers. Et ça, j'aime bien cette expression. Ça me rappelle aussi le parcours d'Hugo Gaston, lorsqu'il avait battu Stan et qu'il avait joué un dimanche soir contre Dominic Thiem en prime time. Je fais une confidence, ma mère m'a passé un coup de fil. Elle me dit, mais c'est qui ce Moïse Kwame? Bon, alors, elle suit le tennis d'assez loin, mais tu vois, c'est la preuve qu'il est rentré dans les foyers, parce que quand tu branches la télé avec lui, tu zappes pas. Parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce qu'il dégage quelque chose. Il a un jeu qui est effectivement super sympa, il a une attitude, il a ce côté showman. Puis même quand il est au bout de sa vie, paf, il trouve les ressources pour renverser. Non, il a tout d'une star, il ne faut pas le dire trop. On va se calmer. Il a fait 2-1 de l'équipe, là il va retourner un peu dans l'anonymat. Mais je suis sûr que ça m'a l'air d'être un bosseur, parce que... Et puis, quand on l'interroge aussi sur qu'est-ce qu'il va faire du prize money, il prend 2-3 secondes d'attente, il dit « je vais me payer des victoires ». Non, il ne parle pas de voiture ou quelque chose comme ça. Non, il a un projet. On compare souvent au projet Mbappé, mais il y a de ça. Il veut aller tout en haut. Il va y arriver, à son rythme.
Et on notera que sur ce Roland-Garros, il est allé aussi loin que Novak Djokovic et plus loin qu'Yannick Sinner.
Ah oui, c'est sûr, c'est plutôt pas mal déjà. Hein, déjà. Et puis à 17 ans, un troisième tour, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Bon, il y en a qui avaient gagné Roland, mais bon, ça remonte, hein, 89.
Ah oui, non, mais j'ai oublié de vous dire, parce que quand on compte, nous, bon, on est journaliste, mais on a des bases de données, mais quand on arrive au stade et qu'on prend les notes du jour, moi j'ai découvert, et je suis un peu tombé des nues, qu'il aurait pu devenir le deuxième plus jeune joueur à atteindre les huitièmes de finale à Roland, derrière Björn Borg. Ça quand même... Ça a de la gueule.
Ah bah quand on voit les stades de précocité et les noms qu'il parvient à rejoindre, on a cité du Nadal, Chang évidemment, quand on voit qu'il égale pour un Français un record datant de 1980 avec Thierry Tulan sur le plus joueur. Donc ça montre à la fois la portée historique de ce qu'il fait, et quand on voit le nom des gars qui sont à son niveau sur ces records de précocité, ah bah, on se dit qu'il n'y a pas que des manchots. si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour le dossier Moïse Kouamé, donc, qui est le dernier Français éliminé dans ce tournoi. Mais il y a une Française qui est là, et c'est la belle surprise. C'est vraiment plus que la locale de l'étape. Ses parents habitent à quelques centaines de mètres du stade de Roland-Garros. C'est Diane Paris qui est en huitième de finale. Première fois, après six échecs, six troisième tours qu'elle avait fait au total. Ça y est, elle a enfin basculer du bon côté, et avec la manière pour son deuxième match sur le central qu'elle affectionne, elle bat Anisimova, tête de série numéro 6, 6-3, 4-6, 7-6. Diane Paris, c'est la belle surprise, et surtout, quelle confiance, quelle assurance, et là aussi, quel mental, parce qu'elle ne tremble pas, elle dégage une sérénité et confiance. Moi, elle me bluffe.
Oui, moi aussi, franchement, elle a été assez bluffante dans son attitude, même quand ça se passait moyennement aujourd'hui, parce qu'elle en a pris des coups gagnants quand même contre Anisimova, et comme il disait, c'est pas facile de trouver son rythme, mais elle a jamais paniqué, parce que au contraire, c'est Anisimova qui a paniqué dans le moment le plus important, dans le super tie-break, et tactiquement, elle s'est vraiment concentrée sur son jeu, à savoir essayer de varier les hauteurs de balles, les rythmes, utiliser son slice et perturber en fait le rythme en cadence d'Anisimova, qui en plus n'était pas spécialement en confiance avant Roland-Garros, elle n'avait pas joué depuis Miami. Donc non, elle a joué, elle a pris des coups gagnants, mais elle a fait le dos rond aussi pendant certains moments, mais dans les moments importants, on aurait dit que c'était elle qui était mieux classée que Anisimova, et au contraire, c'était plus la panique chez Anisimova qu'on on aurait échangé les classements sur ce qu'on voyait sur ce match, ça ne nous aurait pas étonné. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et elle a parfaitement géré ce super tie-break, Diane. Donc bravo à elle. Et ce n'est pas fini parce que c'est jouable pour la suite. Donc vous voyez, on a eu Loïs Boisson l'année dernière. On a Diane qui peut faire aussi bien. En tout cas, voilà, il faut faire match par match. Et ce qu'elle disait, c'est il faut continuer.
Elle a sorti Lee, tête de série numéro 30, l'américaine. Elle a sorti Anisimova, tête de série numéro 16. Là, c'est Chwalinska qui se présente. Là, par favori presque, non ? Le classement est meilleur de toute façon au WTA.
Ah mais là, elle a une chance, une opportunité en or de décrocher un quart en chelem. Il ne faudra pas qu'elle la laisse filer. Maintenant, Diane, c'est une fille qui aime bien, qui a un beau jeu. On a toujours dit d'elle qu'elle avait tout ce qu'il faut. Moi, je la comparais à Amélie Mauresmo parce que quand elle avait battu Krejcikova, voilà, je crois que je l'avais hurlé au micro, c'est la nouvelle Amélie Mauresmo. Ça a mis plus de temps à se mettre en place. Il y a eu pas mal de petits pépins physiques. Elle se cherchait un petit peu. Et puis, depuis quelques mois, sur le plan technique, elle a modifié deux, trois trucs, notamment à... Elle a décidé de frapper revers à deux mains au retour de service. C'est une idée de Julie Coin, l'une de ses coachs, puisqu'elle travaille aussi avec Thomas Schockstedt, mais qui était un peu souffrant ces dernières semaines, donc il n'était pas là. Mais aussi, et Flo va peut-être en parler, c'est une local player, quoi. Elle adore jouer à Paris. Elle a remporté le trophée Clarins deux fois, qui est un tournoi qui se déroule dans le bois de Boulogne, au Lagardère Paris Racing. Moi, je dis souvent... Les joueurs, ils sont tout le temps par Mons et par Vaud. Mais quand tu as la chance de dormir dans ton lit, de trouver ta famille, tes frères, ça change tout. Diane, elle a besoin de ça. Et elle n'est jamais aussi forte que quand elle est à la maison. Donc maintenant, il faut aller plus loin. Elle a effectivement les moyens, pourquoi pas, d'aller chercher le quart, oui, parce que cette Polonaise...
Même plus.
Et voilà, pourquoi même plus. Ouais, oui.
Parce que derrière, c'est Potapova... Kalinskaya, Potapova, qui voilà, fait quand même une performance en sortant Coco Gauff, la tenante du titre. Mais ouais, une demi-finale, Zabalenka, Diane Paris, non ?
Match par match, les gars.
Mais c'est vrai, alors oui, ça peut paraître bateau, mais c'est vrai.
Mais non, mais oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai.
Surtout dans ce Roland-Garros 2026.
C'est clair, c'est le Roland-Garros fou. Pourquoi pas aller au bout ? Attends. Sabalenka, elle a montré de la fébrilité aussi dans le deuxième set aujourd'hui. Non, mais bon, voilà, faut pas se projeter, c'est sûr. On va voir comment elle va gérer ce statut où on va dire que c'est l'occasion à pas manquer pour aller en quart. Ça va être un petit peu différent. Aujourd'hui, elle est pas favorite, elle s'est lâchée. Elle va l'aborder un petit peu différemment, mais je pense qu'il faut juste se centrer sur ce qu'elle fait de très bien en ce moment. Sa variation, elle a de quoi embêter Chalinska, c'est ça ? Chalinska.
Chalinska. Ouais. On se fait avoir, on rajoute un « ya ». Juste un mot, Coco Gauff sorti. On sait qu'elle n'est pas forcément très bien dans son tennis, mais ça restait la tenante du titre, Eric.
Ouais, mais Coco Gauff a beaucoup de difficultés à être régulière. Et là, elle a été cueillie par une fille qui commence à bien couper des têtes, hein, Potapova. On connaît son histoire, elle est russe, et puis elle s'est fait naturaliser autrichienne. Fille qui frappe très fort dans la balle. Et Coco, je trouve que. Moi, j'ai, techniquement, il y a toujours des trucs qui, personnellement, me heurtent, quoi. Son coup droit avec une prise ultra fermée. Bon, moi, le service c'est
dur. Hein.
Commis beaucoup de doubles encore aujourd'hui, j'ai pas tout suivi.
Quelques-unes sur des moments un peu importants, en s'écroulant complètement au milieu du filet. Oui, il faut travailler dessus, mais ils sont dessus avec JC et tout, mais c'est compliqué, ça a l'air compliqué. Le coup droit, je suis d'accord avec toi, ça va trop vite dessus. Elle donne beaucoup de points. Et c'est, j'en ai vu une, c'est pas elle qui a fait une tranche aussi.
On va pas chipoter les mecs. D'ailleurs, est-ce qu'on a l'assurance d'avoir une vainqueur inédite ou pas là? Je même pas réfléchi.
Chiantec est toujours là.
Chiantec, ouais. Eh ben, Chiantec, finalement, le tableau s'ouvre pour la Polonaise, même si Zabalenka est encore là, mais on a quand même perdu la Kazakh, zut.
Rybakina.
On a perdu Rybakina, on a perdu Coco Gauff. Bah, ouais, c'est vrai que pour des filles comme Zabalenka et Świątek, ça peut faciliter leur tâche.
Et une petite Elina Svitolina qui est toujours là. Ça, on pourra évidemment en reparler.
Tu as dit deux choses.
Tu as dit Koboli et Svitolina.
Svitolina, depuis le début, il a fallu changer un peu chez les garçons.
Bon, attaquons la dernière partie de ce débrief de cette journée de samedi, puisque messieurs, il faut quand même parler de cela, un record à Roland-Garros, troisième match le plus long de l'histoire entre Cerundolo, Juan Martín et
Juan Manuel,
voilà, je me confonds toujours, et Juan Manuel et Martín Landaluce, l'espagnol, 5h58, 6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6. 5h58, c'est le match le plus long à Roland-Garros depuis l'instauration du tie-break, parce qu'évidemment, ça change quelque chose. Heureusement qu'il y a l'instauration du tie-break, parce que là, je pense que c'était le record all-time qui tombait. Hein.
Ouais, bah, le record le plus long, c'est le match le plus long, c'était le fameux Santoro-Clément. Hein, 6h33, je crois, de mémoire.
Quelle année?
Je ne sais plus.
2004. Et le deuxième plus long?
Deuxième plus long, c'est Corentin Moutet.
Contre?
Contre un étranger.
Oui. Quelle année? Quel timing? J'ai bossé. Bon, 6h05 contre Giustino en 2020. Italien. Septembre 2020, non, c'est...
Il y a un truc qui me sidère, c'est qu'on a failli aujourd'hui avoir que des matchs en 5-7. Donc il y avait 8 rencontres prévues. Il y a eu, tu parles du Landaluce Cerundolo, mais le Berrettini Comesana a duré 5h13. Le Arnaldi Collignon a duré 4h58. Tiafoe Faria, ça a duré 4 heures. Et puis j'ajoute enfin, le Zvezda Cerundolo a également duré 5-7, mais là c'était beaucoup plus rapide, 3h33. Je trouve que le niveau, j'ai du mal à trouver une explication à ces matchs interminables. Je trouve déjà que le niveau global est super élevé, que tous les mecs sont monstrueux sur le plan physique. Mais où va-t-on aller? Parce que là, si ça continue comme ça, mais il faudra revoir la programmation. Parce que des marathons à ce niveau-là, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu autant de marathons à Roland-Garros.
Non, et puis il y a des enchaînements. Hein. Tu vois, tu parlais de Tiafoe, son tour précédent, c'était 5-7. Moïse, c'était 5-7. Bon, là, il en enchaîne 4. Mais les gars récupèrent aussi. Et ils enchaînent aujourd'hui. Je pense qu'aussi, le fait que le tableau peut-être soit... Ils se disent tous que c'est, il y a un petit coup à jouer quand même pour aller le plus loin possible. Ils ont peut-être envie de se transcender tous. Et puis, moi, je vais retenir un truc, c'est qu'on attendait un Italien en deuxième semaine. Sûr, c'était Yannick Sinner. Il y en a quand même 3. Donc
Berrettini, Arnaldi et Coboli.
Lui, par contre, Coboli en début de journée, tranquillou, 3-7.
C'est limite celui qui laisse, qui fait la meilleure impression. Hein.
Ah oui.
Franchement, quand des têtes de série, des mecs bien classés. C'est Coboli le plus efficace, d'ailleurs, il n'a pas perdu un set, c'est ce que tu me disais, Eric.
C'est le seul joueur du tableau qui n'a pas abandonné la moindre manche depuis le lancement de cette quinzaine. Et au tour prochain, il jouera l'Américain Zvezda. Alors ça, c'est une belle histoire parce que Zvezda, c'est le mec que Kwame a battu à Miami.
Ouais.
Il ne nous avait pas fait une grosse impression à l'époque, mais il fallait le battre quand même. Et Zvezda, ce qui paraît dingue, c'est que il a gagné. Alors, son père est décédé en octobre dernier. Son père, c'était tout pour lui. C'était son coach. Ils ont un autre frère aussi. C'était un travail familial, quoi. Et Svajda a gagné le jour, aujourd'hui donc, le jour de l'anniversaire de son papa. Et évidemment, le symbole est fort. Mais en tout cas, moi, je suis bluffé par ce mec. Et je suis aussi déçu par Cerundolo, qui n'a pas su l'autre, donc
Francisco,
qui n'a pas su saisir sa chance. Donc, Svajda, Koboli, on remonte le tableau, on fait de bas en haut pour changer. Svajda, Koboli, Tabilo, Ogier Aliassime, Arnaldi, Tiafo, Berrettini, Cerundolo, Juan Manuel. Voilà les affiches des huitièmes du...
De lundi. Donc ça veut dire qu'il y a deux matchs que vous allez devoir mettre sur le central, hein, dans ces affiches.
Du haut de tableau. Non, non, mais c'est assez étonnant. Et il y a deux jours, je disais qu'il y avait 16 gars qui vont s'endormir en se disant « je peux aller en finale ». Là, il n'y en a plus que 8. L'étau se resserre. Mais je suis d'accord avec Flo. Je pense qu'un mec comme Koboli, qui a déjà claqué une demi à Wimbledon, est tout à fait capable d'aller loin.
Trois têtes de série seulement dans la partie haute. Il y en a 6 en bas. Puis il reste évidemment Zverev, tête de série numéro 2. Bon, il y a Ogier Aliassime en haut, mais c'est vrai que c'est quand même l'hécatombe. Ça nous permet juste de conclure sur le programme de demain. Il est beau. Alors, on commence sur le central. Kostiuk, Świątek, Świątek, Bencic, De Jong, Zverev, De Jong la surprise, et en session de soirée, Ruud Fonseca. Très belle journée sur le central, hein.
Ouais, c'est une très belle night session aussi. Ils avaient mis deux fois Zverev, donc Zverev passe en journée. Et c'est vrai que cette partie de tableau, de toute façon, en bas est assez dense. Il y a beaucoup d'interrogations sur qui va s'en sortir également. Est-ce que ça va être la première de Zverev aussi? Mais il a montré aussi quelques fébrilités face à Quentin Alice. Donc c'est pareil, en bas, si Ruud et Fonseca ont bien récupéré, je pense que le vainqueur de ce match-là
a
un coup à jouer pour aller jusqu'en finale. Mais là, c'est pareil. Il y a quand même du monde aussi. Donc, non, c'est un Roland fou avec des combats incroyables. L'année dernière, on se plaignait qu'il n'y ait pas trop de matchs en 5-7 à part la finale qui avait été incroyable. Cette année, on ne pourra pas dire la même chose. Donc, je vais rester sur mon petit rude Koboli.
Si Fonseca confirme, après avoir sorti Djoko, avec la qualité de jeu qu'il a face à Ruud, là, il y a attention, il peut aller au bout, non?
Je suis d'accord, parce qu'on n'a pas, je crois, assez insisté sur la qualité de jeu inouïe du Fonseca Djokovic. Maintenant, on va voir comment il va digérer tout ça, le Brésilien, mais s'il est capable de reproduire les mêmes schémas de jeu, avec pas mal de réussites au service, avec ce coup droit fulminant, comme dirait Yon Tiriac. C'est un garçon qui peut effectivement faire une curtaine, quoi.
Sur le cours Suzanne Lenglen, Sirstea qui face à Wang, c'est la gauchère, hein. La joueuse chinoise Sirstea qui, je crois, reste sur 18 jeux d'affilée, quelque chose comme ça. Rodar, Carreño Busta affiche 100% espagnol. Évidemment, on attend Rodar, mais attention peut-être au piège. On a vu que mentalement, on pouvait avoir quelques faiblesses pour Rodar. Andreeva, Teichmann, la surprise suissesse. Et puis on termine sur le Suzanne Lenglen, Mensik face à Rublev. Il y aura des doubles demain. Et puis, il y a le début des juniors. Un petit mot rapidement. C'est évidemment toujours quelque chose qu'on apprécie de voir, nos jeunes joueurs. Et donc dans le tableau, ben, on a la tête de série numéro 1, une Française, qui a joué le grand tableau, c'est Xenia Efremova.
Ouais, elle débute dès lundi, donc on va la suivre de près. Elle est suivie par Manu Planck. Et puis il y aura aussi la tête de série numéro 2, le petit Alexandre Echkou, qui est coaché par Tariq Benaviles. Une drôle d'histoire, lui. Il était roumain encore il y a 6 mois, donc il a été naturalisé. Et puis surtout mardi, il y aura l'entrée en liste de Daniel Jade, qu'on connaît bien. On a fait des podcasts avec lui en début de qualif et il se trouve qu'aujourd'hui, il a gagné son premier tournoi professionnel chez les grands à Carnac, à 25 000 $. Donc il arrive avec le plein de confiance. Mais comme il joue beaucoup chez les seniors, il n'était pas tête de série dans ce tableau junior. Et j'ai déjà noté qu'a priori, il pourrait avoir un deuxième tour très compliqué contre un Américain qui...
Kennedy.
Vadrouillan sur les cours, on peut toujours jeter un oeil. Ouais. Bon, c'est quand même bien les juniors. J'ai pu les jouer, j'ai pu passer un tour. C'est ce qui m'a permis d'intégrer le centre national d'entraînement parce que je m'étais fait un peu remarquer en faisant un super match face au numéro 1 mondial à l'époque. C'était Christian Pless, moi, qui est le Danois. Et du coup, après, j'avais pu intégrer le Centre National d'Entraînement. Donc, on attache beaucoup d'importance aux juniors et c'est intéressant de voir peut-être les prochaines pépites. Donc, j'irai jeter un œil, ouais, forcément.
Toujours une très belle ambiance sur ces cours annexes. Là, les deux affiches sur le cours 6, si vous voulez arriver de bonne heure ce matin. Et à noter que ça va démarrer à 11h sur les grands cours, y compris. Alors, le Langlen, ça démarre toujours à 11h, mais le Châtrier, on démarre à 11h demain. Donc, ne manquez pas le début de cette fantastique journée et début de ces huitièmes de finale. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Flo. Et à demain. On se retrouve.
Ciao, ciao.
RMC, cours numéro 1.